Radio Okapi.
Okapi Service, du lundi au vendredi, de 9h à 11h, heure de Kinshasa, avec Tati Mampoukou. Okapi.
Deuxième partie du magazine Okapi Service, comment lutter contre l'accaparement des terres arables, des terres agricoles en RDC. Nous en parlons avec l'ingénieur Ignace Boyabiza, il est consultant à la Confédération Paysanne du Congo Copaco, PRP en sigle. Bonjour ingénieur Ignace.
Bonjour cher ami Tati.
Bienvenue dans Okapi Service. Nous avons également au bout de fil Sarah Manganza, elle est journaliste, elle a mené des enquêtes au Congo central à Mazangungu dans le cadre de cette problématique d'accaparement des terres. Sarah, bonjour et bienvenue dans Okapi Service.
Bonjour Tati.
Si vous êtes intéressé par ces sujets, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 099-706-99-41. Appelez-nous, nous allons vous rappeler pour intervenir en direct. Par SMS, envoyez vos questions, commentaires et suggestions par les mêmes numéros. C'est aussi possible de nous laisser vos commentaires sur la page Facebook d'Okapi Service. Nous attendons également vos commentaires dans les courriels dénommés service@radiokapi.net. Tati Mapoukou, c'est moi qui présente et coordonne cette émission. Gassin Vuezolo est à la coordination et Jean-Claude Tiala s'occupe de la prise de son. Toute l'équipe vous souhaite une excellente condition d'écoute de cette deuxième partie d'Okapi Service.
Parole aux auditeurs.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix. En RDC, les habitants de plusieurs villages du territoire de Mazangungu dans la chefferie des Kolofouma Congo Central, réclament les terres que leurs ancêtres avaient cédées à la compagnie Jules Van Lanker, Juvel en sigle, en 1921. Des accords qui, selon ces populations, datent de l'époque coloniale et par conséquent devraient tomber caduques parce que ces contrats ne sont plus adaptés aux réalités socio-économiques et juridiques actuelles. Des cas similaires sont récurrents sur l'ensemble du territoire national d'après certains observateurs. Comment lutter contre l'accaparement des terres arables en RDC? Et que faut-il faire pour remettre ces communautés dans leurs droits? Nous en parlons dans cette deuxième partie de notre magazine Okapi Service. Ingénieur Idias, vous partagez cette assertion qu'il y a vraiment un problème concernant l'attribution des terres ici en RDC.
Exact, cher ami. C'est un problème très sérieux, non seulement pour cette partie du territoire de la province de Congo central, mais c'est un problème épineux pour l'ensemble de notre pays, surtout dans les provinces minières. C'est un problème quotidien. Alors, il s'est fait que ce problème d'accaparement de terre, il est d'abord universel. Dans presque tous les États, principalement les États dits du tiers-monde, les pays qui ont été colonisés, subissent ces problèmes jusqu'à ce jour. Donc je pense, tel que vous aviez initié l'émission, c'est pas en une heure ou en deux heures qu'on pourrait décortiquer tous les aléas dus à cet épineux problème d'accaparement de terre. Et le cas de Jivel dans le territoire de Mazangungu,
à Kolofouma spécialement,
est un exemple très sérieux pour notre pays.
Sarah Manganza, vous avez réalisé, je rappelle que vous êtes journaliste, vous avez réalisé, mené des enquêtes sur place. Dites-nous, quelles sont les raisons qui vous ont motivé à travailler sur cette problématique?
Ce sujet m'avait été proposé, je l'ai trouvé vraiment très intéressant. Vous m'avez été proposé par mon DG après le combat. Et je trouvais que c'était vraiment intéressant parce qu'il y a près de 108 villages, imaginez, 108, je dis bien 108 villages, qui se retrouvent sans terre. Alors je m'étais dit, c'est vraiment un problème social qu'il faut régler d'urgence parce que c'est vraiment un conflit qui peut créer des problèmes graves à cet endroit-là.
Sarah, il y a des sifflements dans la communication là où vous êtes. Si vous pouvez sortir de ces locales et si vous avez activé le haut-parleur de votre téléphone, désactivez-les pour améliorer la qualité de l'écoute. Ingénieur Ignace, que devons-nous comprendre par les concepts composés accaparement des terres?
Oui, bon, d'abord, il y a quelque chose à recadrer. Les terres dans notre pays sont gérées par la loi foncière. Et que les populations, ils ont des droits fonciers. Et principalement dans le système d'acquisition de terres dans notre pays, ce sont les clans, les familles en milieu rural qui sont détentrices de terres. C'est ce qui fait d'ailleurs que quand vous n'avez pas de terres, il y a un jargon dans nos milieux
traditionnels.
On dit que tu es esclave. Donc la terre, c'est une ressource très importante qui donne de l'identité à un citoyen. C'est ce qui fait que, à l'heure où nous parlons, si il y a eu cette enquête et on a découvert une masse assez importante de la population qui est déshéritée de ses ressources, notamment la terre, c'est un problème très sérieux. Et je me rappelle, à l'époque, Ersen, qui est une ONG belge qui était installée dans notre pays, j'étais coordonnateur régional de la Confédération paysanne du Congo, principal regroupement paysan, qui est une des fêtières nationales dans notre pays, qui est présente dans toutes les 26 provinces de la République. Nous avions mené une mission, notamment à Matadi, pour justement obtenir des informations sur cet aspect de conflit foncier. Et il y en a autant. Donc j'ai dit et je continue à persister que l'accaparement de terres non seulement a été manifeste à l'époque coloniale dans notre pays, mais aussi à l'heure d'aujourd'hui, pays indépendant, mais les populations rurales continuent à subir cette opération de pouvoir perdre leur terre ancestrale.
Et un autre constat, ingénieur, nous voyons des portions des terres qui ont été achetées malheureusement, qui ne sont pas utilisées, et les communautés locales ne savent pas où aller faire les champs. Et ça, c'est aussi un préjudice considérable pour les communautés.
Oui, naturellement. Non seulement ils n'ont pas d'espace pour leurs activités agricoles ou d'élevage ou même de pisciculture, mais il y a des villages entiers qui se retrouvent dans des concessions de multinationales qui n'ont pas droit même d'avoir un cimetière. Quand ils ont des morts, ils doivent aller demander l'autorisation à ces propriétaires de concessions. Donc ça, c'est quelque chose de trop grave. Il s'est fait malheureusement que la loi foncière actuelle, qui est pratiquement
obsolète
ne protège pas le droit de ces populations-là. Donc c'est quelque chose que notre pays devrait revoir. Et je fais un recul pour déterminer que lorsqu'on parle de terres arables dans notre pays, c'est vraiment théorique.
Est-ce on parle de 80 millions d'hectares de terres arables.
Pendant que les petits producteurs agricoles, qui sont
les
paysans,
pour faire les champs.
Voilà. Donc c'est vraiment contradictoire et même aberrant de pouvoir vivre dans un état où, théoriquement, du matin au soir, on chante les 80 millions de terres arables, mais les populations, le nanti, eux, n'ont pas justement cette jouissance-là de pouvoir travailler librement, produire pour leur subsistance et le reste pour donner aussi dans le marché, que ce soit local ou frontalier, de manière à pouvoir obtenir des revenus.
Sarah Manganza, j'espère que vous êtes déplacée de là où vous étiez pour améliorer la qualité de l'écoute. Je reprends ma question.
Oui, oui.
Je voulais savoir, au fait, les mobiles qui a motivé votre rédaction à réaliser cette enquête dans le Congo central à Kolofuma spécialement.
Oui, oui, en effet, nous avons appris qu'il y avait des populations, des villages entiers qui étaient dépossédés de leurs terres. Là, vous me suivez, j'espère.
Nous vous recevons 5 sur 5. Allez-y.
Parfait. Qui étaient dépossédés de leurs terres. Alors, nous nous sommes dit que c'est une question qui, en tout cas, nécessitait d'être traitée minutieusement afin que la voix de cette population-là soit entendue.
Et une fois sur place, quel est le constat qui a été fait dans les recoupements d'informations, Sarah?
Oui, le constat qui a été fait est que ces populations, comme venait de le dire l'ingénieur, je commençais même à me demander s'il est allé comme moi sur place pour vérifier. En tout cas, le constat était que JVL a vraiment étendu ses terres et qui sont encerclées. Donc, la population, ça je l'ai vécu moi-même, il y a même des images, je suis pas en train de dire des choses en l'air, pour se déplacer, la population a le devoir de chercher comment violer, si je peux le dire ainsi, violer les barrières, quelques barrières de JVL. Ils ont même appris à ouvrir et à refermer. Donc, prenons par exemple le cas d'une femme enceinte. Si ils veulent déplacer une femme enceinte pour qu'elle aille donner naissance à son bébé, ils doivent s'arrêter pour ouvrir la barrière et refermer pour passer. Donc, les champs également, ils n'ont plus assez d'espace pour cultiver. Surtout une partie de la du village Kinsala qui connaît vraiment des sérieux problèmes parce que la population estime que là où elle a été placée, c'est sur une île. À chaque fois qu'il pleut, c'est très compliqué de se déplacer, de se mouvoir. Et elle a même tendance à croire qu'elle pourra un jour être engloutie dans les eaux.
Donc,
en plus,
cette communauté se retrouve en quelque sorte enclavée, Sarah.
Oui, oui, c'est ça. Et pour cultiver leur champ, ils sont obligés de traverser le clar. Le clar, c'est l'enclos des vaches, des JVL. Et malheureusement, ces vaches ravagent les champs et JVL refuse de les payer carrément.
Et,
c'est un peu en gros ce que je peux dire.
Et que revendiquent au fait ces communautés qui sont affectées par l'occupation à grande échelle des portions de leurs portions de terre au fait. Qu'est-ce qu'elles revendiquent aujourd'hui parce que ces espaces ont été cédés par leurs ancêtres?
Ah oui, la population dit que ces contrats-là doivent être caducs parce qu'ils avaient été signés avant l'époque coloniale. Alors, ils estiment que, comme le pays a obtenu l'indépendance, tout ce qui avait été signé avant l'indépendance devrait tomber caduc. C'est comme ça qu'ils réclament, en tout cas, ils sont unanimes, ils réclament leur terre. Ils veulent que leur terre soit rendue. Voilà.
Nous vous gardons en ligne, Sarah. Ingénieur Biza, vous avez compris le scénario tel qu'est décrit par Sarah au niveau de son enquête qu'elle a menée sur place à Mazangungu. Quel est votre commentaire à ce sujet?
Oui, mais il faut saluer d'abord la bravoure de Madame Sarah pour mener une telle enquête. Et en plus, les communautés doivent s'organiser de manière à pouvoir revendiquer. Parce que cela ne peut pas s'obtenir si facilement. Parce que j'y vais en tant qu'entreprise, en signant le contrat avec les arrières
grands-pères
de cette communauté. Aujourd'hui, on est peut-être à la 10e, 15e génération. Donc, il faut voir les choses sous un autre angle. Donc, cela implique qu'il faut qu'il y ait beaucoup d'acteurs, notamment l'État lui-même, le principal acteur dans ces dossiers. Et puis, il y a la société civile qui doit s'impliquer. Il y a aussi le représentant de cette communauté. En ce moment-là, cette synergie pourrait dégager juste une piste de solution de manière à ce que l'on sache à l'heure d'aujourd'hui quelle est la capacité d'occupation de JVL dans ces étendues de terre qu'elle a dû bénéficier de manière assez gratuite, entre guillemets,
oui,
par rapport aujourd'hui, parce qu'il y a de richesses dans ces terres-là. Ça s'appelle terre, mais on ne sait pas quel est le contenu.
Dans les sous-sols.
Oui, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ce sont des choses auxquelles l'État congolais devrait en fait ouvrir l'œil pour savoir que le cri d'alarme de cette population-là est tout à fait normal et revendicatif, de manière à ce que demain, les générations futures puissent jouir autrement de ces terres qui ont été, de manière, disons, un peu camouflées.
Acceptables par le passé, mais avec le temps...
Qui n'a plus de valeur, qui n'a plus de, d'expression. Donc, Jivel, ou même ceux qui ont acquis Jivel, doivent, en tout cas, rentrer sur une table de négociation pour que le contrat soit signé en bonne et due forme et que les intérêts, justement, de cette communauté puissent être clairement établis.
Ingénieur Ignace Bizard, nous, dans cette émission, on donne la parole également à la population. Donc, nous allons partir au standard, donner la parole aux auditeurs et puis nous allons revenir dans notre entretien. Comment lutter contre l'accaparement des terres arables en RDC? Nous en parlons dans cette deuxième partie du magazine Okapi Service. Si vous êtes intéressé par ces sujets, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 099-706-9941. Appelez-nous, nous allons vous rappeler pour intervenir en direct.
Allô?
C'est parce que Radio Capi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour.
En tout cas, j'étais très ravi par rapport
à ça. Je suis vraiment ravi par la pertinence de vos...
Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs et votre émission. Vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions.
Chacun doit avoir la conscience.
On n'a pas de travail.
Le intouchable, dans ces pays, n'existe pas.
Suivez cette émission chaque jour de 13h à 14h, heure de Kinshasa. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter du lundi au vendredi à 21h.
Le premier auditeur intervient depuis la ville de Kisangani, il s'appelle Blaise. Blaise, bonjour et bienvenue dans Okapi Service.
Oui, bonjour.
Oui, on parle de l'accaparement des terres arables en RDC. Quelle est votre contribution à ce niveau de l'échange?
Vraiment, merci pour nous avoir associés dans ce débat. J'ai salué M. Joubi, j'ai salué notre invité. Vraiment, je vous dis, c'est un sujet trop pertinent, vu que nous, l'accaparement, voilà, je disais que nous, c'est un sujet trop pertinent, vu que l'accaparement des terres pose toujours un problème sérieux. Donc, je pense bien que non, lorsqu'on parle de l'accaparement des terres, il existe quelque chose. Par exemple, lorsque les investissements violent les droits humains et des minorités, il y a aussi les investissements qui se basent sur les contrats ou pactes qui n'éclairent pas les conditions de travail. Ça, c'est un problème. Cher Judy, cette histoire crée un peu des problèmes trop sérieux. Dans la ville de Kisangani où je suis, c'est toujours le problème des terres qui a donné le conflit entre deux tribus, les Lengona et les Mbole. Toujours l'accaparement des terres. Maintenant, la question que je vais demander à notre invité, est-ce que l'accaparement des terres est-il un phénomène de nouveau ou bien? Ça, c'est ma première préoccupation. Et la seconde préoccupation, pourquoi des terres sont-elles accaparées?
Merci. Oui.
Allô?
Oui, on vous écoute, M. Blaise. Allez-y rapidement. Il y a des auditeurs qui attendent, s'il vous plaît.
Oui, oui. Voilà. Il faut de parler que nous apparemment des terres nous a mené à ces conflits. À ces conflits. Aujourd'hui, si vous regardez dans notre pays, il y a un problème entre les Tékés. C'est toujours le problème des terres. Il y a le problème à Kisangani entre les Mbole et les Lengola. C'est toujours le problème des terres. Mais de la cette histoire, à qui...
Merci beaucoup, M. Blaise. La liaison n'est pas assez fiable avec la ville de Kisangani, mais on a compris les fonds de votre pensée et les questions que vous avez posées. L'invité aura le temps d'y répondre à vos préoccupations. Cette fois-ci, ingénieur, nous allons à Bounia pour donner la parole à Thomas. Thomas, bonjour. Monsieur Thomas, malheureusement, Monsieur Thomas, il n'est pas en ligne. Comment répondez-vous à l'auditeur de Kisangani, ingénieur?
Ok. Bon, je crois que sa première préoccupation, ce n'était même pas une question.
Une contribution plutôt.
Oui, puisqu'il dit ce phénomène est-il nouveau? Non. Mais l'accaparement de terre, c'est depuis l'existence de l'homme. Et j'ai dit en introduction que c'est un problème qui est universel. Ça se passe un peu partout dans le monde. Et le Brésil, en Amérique latine, est l'un des pays qui a subi justement ces problèmes-là, à tel point que il y a un grand mouvement mondial qu'on appelle la Via Campesina, qui est organisé à partir du Brésil et qui a eu des extensions à travers le monde pour lutter justement contre ce phénomène d'accaparement de terre. Alors, sa question, quand il dit pourquoi y a-t-il ces phénomènes, pourquoi il y a des accaparements de terre.
Oui, un peu partout.
Oui, mais ça c'est évident. Ce sont des gens qui, en fait, affichent l'égoïsme. Ils veulent obtenir la plus grande part de terre pour eux, que ce soit un individu ou organisé en termes de société. À travers le monde, on parle de multinationales. Ce sont elles les grandes sociétés qui exploitent de grandes étendues de terre, qui sont le principal actrice justement de la création de ces problèmes-là.
On me signale l'ingénieur au standard, qui est l'auditeur de Bounia. Il est là.
Ok, d'accord.
Monsieur Thomas, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour monsieur Tati Mapoukou, bonjour à l'invité et à tous les auditeurs de la radio.
Oui, nous parlons de la problématique d'accaparement des terres en arable et en RDC. Quelle est votre contribution à ce niveau de l'échange et du débat?
Merci pour la parole nous accorder. Monsieur le journaliste, ce problème-là de l'accaparement, c'est vraiment, ça fait casquette partout en Italie, surtout en République démocratique du Congo en particulier. Et tout ça aussi, c'est à la base, c'est parce qu'on n'arrive pas à respecter la loi. Parce que dans ce pays ici, nous avons une loi, la loi dite foncière, qui est là, parce qu'à la base de tout ça, ce sont les problèmes de terre. C'est l'organe qui est habilité ou qui réside toutes les affaires concernant les terres. Donc, c'est tout dans la loi dite foncière, si on arrivait quand même à bien respecter la loi, je pense qu'on devait, les pareils problèmes ne devaient pas se poser. Quand à cela, il y a des questions à poser à l'invité.
Allez-y.
Qu'est-ce dit la loi ou la procédure concernant le pourcentage qui doit revenir à ces communautés qui se disent qui sont victimes? Le pourcentage qui est la loi ou leur pourcentage à ce qui concerne l'accaparement de celles est de combien de pourcent? Si je peux avoir la réponse à ta question. Merci pour la parole et bonne suite à vous.
Merci beaucoup, M. Thomas. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Bounia, en Ituri, que vous intervenez. Ingénieur Ignace, comment répondez-vous à M. Thomas de Bounia?
Ok. Thomas, d'abord, bonjour. Très bien pour cette curiosité que vous avez. Il faudra rappeler que notre loi foncière date depuis l'année 1973.
Excusez-moi, ingénieur, si on peut retourner au standard rapidement, qu'on donne d'abord la parole à l'auditeur, et puis nous allons revenir.
Okay.
Roger, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour M. Tati, bonjour à nos invités, et bonjour à tous les amis fidèles de la Radio de la Paix.
On vous donne la parole en priorité, allez-y.
Ouais, merci beaucoup pour m'avoir accordé la parole et merci beaucoup pour la thématique du jour. M. Tati, si vous voyez dans notre pays, la plupart des conflits qui se font, ou bien l'accaparement des terres, ça se dit par rapport au chef coutumier, ou bien vous pouvez voir quelque part qu'il y a quand même une autorité qui règne, ou bien un député, qui cherche quand même à imposer. Parce que je me rappelle à un cas qui s'est passé au Cassage central, à l'époque où Trésor Kapuko était gouverneur. Il a cherché quand même de nommer un chef coutumier par force. Donc c'est le chef coutumier qui était quand même en place, il a refusé. Ça s'est créé quand même des conflits, où il y a eu quand même des tribus qui se combattaient quand même pour avoir quand même des terres. Je pense que c'est... Tout est partagé quand même avec nos autorités et aussi les chefs coutumiers qui sont à la base des notaires.
Merci beaucoup, M. Roger Marcel. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Kinshasa que vous intervenez, vous soutenez que ce sont aussi les chefs coutumiers, les ayants droit coutumiers qui entretiennent ces problèmes. Ingénieur Ignace, comment répondez-vous d'abord à Thomas qui nous a appelé, qui voulait savoir au fait ce que dit la législation foncière hein, concernant ces problèmes-là en termes d'acquisition des portions de terre.
Ok. Thomas, je disais, lui, il voulait savoir quel est le pourcentage qui revient aux communautés locales. Mais avant de répondre, je devrais recadrer que notre loi foncière date de 1973 et qui est même obsolète à l'heure d'aujourd'hui, puisqu'on a déjà mis en place, il y a de cela plus de 10 ans, une commission qui s'appelle CONAREF, Commission nationale pour la réforme de la loi foncière. Le travail s'est fait, mais puisque dans cette loi, il y a à boire et à manger. En fait, concernant la part qui doit revenir aux communautés locales, ce sont des cahiers de charges qui sont signés entre les exploitants. Prenons le cas dans une communauté où on doit exploiter le bois. Cette communauté doit bénéficier de certains avantages sociaux, notamment la construction des écoles,
des ponts,
la construction des routes, la construction des infrastructures sanitaires, comme vous le dites. Oui. Oui. Alors, tout ça, c'est pas en termes de pourcentage, mais en termes justement de ce qui doit répondre au vécu quotidien de cette communauté-là. Donc, la société qui exploite, elle gagne de l'argent. Donc là, c'est pas un sujet tabou. C'est dans les accords, dans les contrats, que tout doit être clairement mis en place de manière à ce que la communauté se retrouve. Prenons un cas très simple. Vous êtes dans une communauté où on exploite le bois, où il n'y a pas de route, où il n'y a pas d'école, où il n'y a pas d'hôpitaux. Donc, rien, la vie est totalement au brouillon. En ce moment-là, la société qui vient, le contrat doit être quelque chose de bien négocié pour qu'on on retrouve tous ces avantages-là pendant autant d'années. Si l'acquisition de ces terres, c'est pour 50 ans, ces avantages aussi doivent durer 50 ans. Ça, ce sont des exemples concrets. Donc, il n'y a pas à parler de pourcentage ici, parce que...
Oui, même ingénieur, avec les temps aussi, pour des cas des terres qui ont été cédées, par exemple, avant l'époque coloniale, l'échange, les clauses ont eu lieu autour d'un sac de sel et autres. Et aujourd'hui, 3-4 siècles après, des années plus tard, ça ne représente presque plus rien.
Ça c'est justement aléatoire. C'est comme ça que nous avions dit qu'il faudrait qu'il y ait une espèce de table ronde, de manière à ce que tous les acteurs, les multi-acteurs, puissent se retrouver et qu'on renégocie justement ces contrats-là.
Oui, avant de répondre à la question de Roger Marcel, qui a appelé de Kinshasa, nous allons donner la parole à Sarah. Sarah, vous êtes en ligne, hein? Vous nous écoutez? Oui, dites-nous Sarah, vous qui étiez sur terrain, est-ce que vous avez pu également entrer en contact avec les groupes Jivel qui fait l'objet de cette problématique d'accaparement des terres au niveau de la ville de Mazangungu?
Oui, justement, parce que notre média, en tout cas, vise à toujours avoir toutes les sons de cloche. Nous ne pouvons pas, tous les sons j'allais dire, nous ne pouvions pas nous limiter à la population. J'avais rencontré le groupe Jivel d'ici à Kinshasa, qui est maintenant Sogenac, et le propriétaire, qui s'appelle Jean-Claude Damso, m'avait laissé entendre qu'il a trouvé ces terres lui léguées par ses arrière-grands-parents. Alors, il a des documents signés en bonne et due forme avec l'État, et il paie ses taxes normalement. De l'autre côté, à Kolofuma, j'ai également rencontrer le chargé des relations publiques à Jivel, qui m'a laissé entendre qu'ils étaient en train de traiter cette question-là petit à petit. Ils sont en train de voir comment régulariser la situation avec les communautés. Entre-temps, ils ont, pour essayer de vivre en paix avec les dites communautés, ils ont organisé un cadeau de bon voisinage.
C'est ça veut dire quoi, ça?
Un morceau. C'est une partie de viande qu'ils donnent chaque année à ces communautés-là de Kolofuma. Mais malheureusement, au lieu de réjouir la communauté, ce cadeau-là dit de bon voisinage énerve la discommunauté davantage parce qu'elle se dit qu'ils ne sont pas voisins, ils n'ont aucun lien de voisinage, ils sont les propriétaires de ces terres-là.
Et c'est pourquoi et au tout cadeau, début, j'avais dit... Oui, Sarah, et ces cadeaux, on donne ça à la communauté une fois l'an?
Oui, oui, une fois l'an.
Ben, est-ce qu'on peut apprécier le colis en termes de kilos? C'est quelle quantité, là?
Selon la communauté, en fait, selon Jivel, c'est une vache entière. Mais selon la communauté, c'est une vache dont certaines parties ont été retirées. Donc, la communauté estime qu'à l'époque, les années passées, c'est pas moi, il y a 10 ans, 20 ans, ça pouvait encore suffire. Mais aujourd'hui, avec la démographie, parce qu'ils sont en train de se multiplier, ça ne représente rien du tout. Et ils estimaient également que JVL pouvait s'organiser pour leur donner, par exemple, des vaches. Ça pouvait leur permettre de s'organiser pour les élever et voilà, se reconstruire.
Oui, Sarah, il y a une question qui me traverse l'esprit. Mais est-ce qu'en termes de responsabilité sociétale des entreprises, est-ce que cette entreprise, en contrepartie, entretient des routes, des ponts, des écoles pour les enfants ou des hôpitaux? Vous êtes documenté
selon la communauté de ce côté. Oui, oui. Oui. Selon la communauté de Kolofuma, non. Selon elle, elle ne bénéficie de rien du tout de JVL, en commençant par la scolarité des enfants. Elle s'était même plainte en disant que JVL s'est établi sur leur terre. JVL a placé son quartier général à Kinsala, mais malheureusement, Kinsala ne se retrouve pas. Il ne bénéficie pas de la scolarité, il ne bénéficie pas de soins de santé. J'ai même rencontré la responsable des femmes du village qui m'a laissé entendre que les femmes ne bénéficient d'aucun soin de santé de la part de JVL. Donc, la population se débrouille comme elle peut. Elle s'est fait soigner seule et scolarise ses enfants seule.
Mais est-ce que vous avez eu le temps d'avoir les sons de cloche de la société civile locale?
Oui, la société civile locale a laissé entendre qu'elle continue à se battre en vain parce que elle estime que les autorités locales sont dans la poche des JVL. Voilà. Si, ou vice versa, je sais pas. Parce qu'elle estime que malgré les revendications, malgré les lettres, en tout cas, rien ne change.
Merci beaucoup Sarah Manganza pour ces comptes rendus de l'enquête que vous avez pu réaliser dans la province du Congo central à Mazangungu. Merci beaucoup et à la prochaine occasion. Excellente intervention. Merci beaucoup.
Merci Tati.
Comment commentez-vous au fait les comptes rendus de notre concert qui a pu faire ce travail sur terrain au Congo central, ingénieur?
Oui, je pense que c'est une action importante qu'il faut d'ailleurs non seulement soutenir, mais qu'il faut toujours continuer d'approfondir pour que, à un certain niveau, l'on puisse obtenir la vraie responsabilité de chaque acteur. Si M. Claude Damson a réagi en disant qu'il a des documents, voilà pourquoi je vous disais au début que l'État lui-même a une grande responsabilité.
Exactement.
De manière à ce que la responsabilité de l'État qui consiste à sécuriser la population. Radio Okapi, c'est la radio de la paix. Là où il n'y a pas la paix, il n'y a pas de développement. Donc ça veut dire que cette population-là est en détresse, il n'y a pas de paix. Et elle cherche comment retrouver sa paix dans l'exploitation libre de ces terres.
Ingénieur Ignace, excusez-moi de vous retirer la parole, qu'on la donne d'abord à la population, aux auditeurs qui sont au standard, et puis nous allons revenir ici au studio. Monsieur Pierron Pagna, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour, papi, bonjour. Papi, l'invité.
Déplacez-vous, s'il vous plaît, déplacez-vous de là où vous êtes, hein, pour améliorer.
Allô?
Oui, là on vous reçoit 5/5, allez-y.
Merci beaucoup. Je sais que le sujet c'est l'accaparement des terres arables. Allô?
Oui, allô, s'il vous plaît. Éteignez la radio, écoutez-nous au téléphone. Hein? Écoutez-nous au téléphone.
Oui, je l'ai déjà fait.
Okay.
Je voulais dire d'emblée que cette acquisition des terres massives, des terres agricoles dans notre pays, comme l'invité l'a élucidé avec le Brésil, moi je trouve que ici dans notre pays, c'est désagréable parce que j'ai constaté que dans la province du Haut-Katanga où nous vivons, dans le Grand Katanga, vous avez trouvé que la majorité des terres arables sont déjà occupées par des gens. Mais ce n'est pas la production qui est comptable. Si vous allez là-dedans, vous allez trouver que c'est une ferme qu'on a déjà renfermée où il n'y a pas de production. C'est là que ça blesse. Comment vous pouvez prendre une très grande masse de terre comme ça et il n'y a pas de production, vous avez renfermé. Peut-être que vous avez d'autres projets que vous voulez faire là, mais vous parlez enfin, vous signez. C'est pour un projet agricole. Ça, c'est quelque chose qui se voit, nous ne savons pas quoi dire là-dedans, ou c'est parce que l'État aussi semble être aussi dans ce jeu-là où on ne se parvient pas à comprendre. Je voulais parler de quelque chose qui se fait. C'est ce genre de société qui a des professions comme ça. Il a trouvé une voie de public, c'est une route déjà chantée, mais lorsque ces produits-là qu'ils utilisent abîment et exposent le peuple dans des maladies. Quand le peuple crie, il lance ses voix aux hôpitaux, mais il n'y a rien. Parfois, cette société-là verse de l'argent, mais l'État ne parvient pas à faire où la suivi n'est pas là et la population est toujours exposée. Ça, c'est la première question que je voulais poser. La deuxième question, pourquoi, quand on voit ce sujet ici, c'est dans cette acquisition de terres, c'est seulement dans le Matadi et les Grands Katanga, au moment où nous avons d'autres points. Dans les Grands Katanga, par exemple, nous avons des terres comme nous parlons du projet de Nyamakasese. Si ça s'élargissait dans d'autres villes ou dans d'autres territoires, Lubumbashi ne devrait pas être autonome de Lubumbashi dans le denrées alimentaires. Mais comment ça fait-il que nous avons des terres arables comme ça, mais nous dépendons toujours de la Zambie? Ça, c'est en Zambie, on commence à nous appeler même les Chibualala. Ce qui veut dire que des fainéants, des gens qui ne travaillent pas. Au moment où, dans le centre du pays, je prends le côté de mon village, nous sommes dans la Lomami, il y a beaucoup d'espace là-bas. Pourquoi les gens, même le gouvernement, pourquoi on ne parvient pas à mettre aussi ce projet-là, donner des investisseurs, même étrangers, à ce côté-là, pour que le centre puisse aussi...
Malheureusement, on a en fait la liaison n'a pas marché avec Piron Pania qui nous a appelé depuis la ville de Lubumbashi. Nous restons dans la même région pour donner la parole cette fois-ci à Monsieur Justin. Bonjour.
Bonjour Monsieur Tati Mapoukou et je dis bonjour à tous les auditeurs de la radio.
Allez-y, on vous donne la parole.
Le sujet est salutaire vraiment, c'est très intéressant puisque ce sont les situations que nous sommes en train de vivre ici. La population coutumière n'a pas vraiment les terres à céder conformément à la loi Bakajika qui dit que toutes choses appartiennent, les sols et les sous-sols et l'espace aérien appartiennent à l'État. Il y a les contrevaleurs de passation que les communautés donnent à ces peuples pour qu'ils puissent faire l'agriculture et autre chose. Si c'est pour les fermiers expatriés, ça revient seulement à l'État de leur signer les contrats avec eux. Mais quelles sont les clauses du contrat? C'est là où il y a les sérieux problèmes. Les contrats ne les obligent pas à respecter les habitants. Nous voyons même avec les miniers. Donc le peuple qui entoure les secteurs là où on est en train d'exploiter, ils sont privés à leur liberté. Nous ne sommes pas dans les miniers, nous sommes dans l'agriculture. Il y a ce qu'on appelle CFSL, concession forestérique des communautés locales. Oui. Est-ce qu'il peut y avoir une somme, une caution pour en avoir? Ça c'est un. De deux, pour qu'un ou certain chef coutumier donne une concession, une portion à quelqu'un, les prix doivent s'élever à combien? Puisque nous avons du pain sur la planche, même en ayant des parcelles dans des endroits inhabités, là où il n'y a pas l'urbanisation. Pour avoir une parcelle, donc les prix rehaussent d'une manière extraordinaire. Et qu'est-ce que l'État va nous dire avec quelqu'un qui ne va pas respecter les clauses des autochtones, ou soit des habitants, ou soit s'il part en dehors, nous découvrons que c'est l'État qui est en train de lui dire ça. Est-ce que la population a-t-il de revendiquer, ou soit de faire revenir l'occupant dans les droits? C'est ce que j'avais comme préoccupation, M. Tati Mapoukou. Je dis et je vous remercie.
Merci beaucoup, M. Nkoulou. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Fungurume que vous avez pris la parole. Ingénieur, commençons d'abord par la question de l'auditeur de Kinshasa. Il s'appelle
Roger Marcel.
Voilà, qui a dit que ce sont des chefs coutumiers qui entretiennent également ces problèmes dans l'arrière-pays.
Oui, oui, exact. En fait, du point de vue de la loi, ça, nous adressons en même temps à Justin Nkoulou, parce qu'il a parlé des autorités traditionnelles. En fait, ils n'ont pas qualité. La loi foncière reconnaît comme autorité de gestion des terres dans notre pays, vous avez l'État lui-même, parce que c'est l'État qui est le propriétaire de la terre, à travers ses services, à travers ses délégués. Vous avez notamment en premier lieu le ministre ayant le foncier dans ses attributions et ses représentants au niveau du territoire. Vous avez le titre immobilier. Ce sont des autorités mandatées au niveau de l'État congolais. Mais un chef coutumier n'a pas qualité. Il est vrai qu'il gère des terres rurales, mais ces terres rurales sont sous l'apanage de chefs de famille, de chefs de clan, selon que c'est le clan qui est prédominant.
Voilà.
C'est à ces niveaux-là. Mais ils n'ont pas qualité. Ce qui se passe dans notre pays, c'est en fait de la magouille. Un chef coutumier qui vous donne un document qui n'a aucun titre, hein, autorisation ou contrat de vente, tout ça. Ça ne se fait pas ça. C'est duper la personne même qui est allée acheter. Alors, concernant le concession, quand vous êtes dans la périphérie de la ville province de Kinshasa, notamment dans les communes de Mongafula, Maluku, Nsele, vous verrez des affiches à gauche, concession à droite, telle, concession Y,
qui ne sont pas utilisées.
Voilà. Et gardées comme ça.
Des années.
Alors, voilà. Je me rappelle, lorsqu'on a fêté le 50e anniversaire de notre pays à l'indépendance, le cinquantenaire, il y avait une très bonne organisation avec le commissaire général, à l'époque que je salue, le général Denis Kaloumé. Mais on a fait de descendre sur terrain, notamment à Maluku, vous verrez 200, 300 hectares inexploités.
Pourquoi? Parce que ça appartient à un individu.
À un individu. Et principalement, ceux qui sont responsable de ce pays, autorité.
Ils sont aux affaires.
Que ce soit un ministre, que ce soit un député, un sénateur. Est-ce qu'ils ont le temps de lire la loi de ce pays sur la gestion des terres? Ça, c'est une question. Il n'y a que eux qui peuvent répondre à cette question. Mais nous, c'est un constat. Alors, on avait pris même des résolutions pour que toutes ces concessions-là reviennent d'abord à l'État. En fait, une expropriation. Et de manière à pouvoir créer ce qu'on peut appeler un plan d'aménagement sur le plan de gestion en tant que une cité, une ville.
Parce que lorsqu'on vous cède un espace destiné à une activité agricole, par exemple, il y a un délai de valorisation de l'espace.
Bien sûr.
Mais si les années passent, l'État doit valoriser, l'État doit récupérer.
Oui, parce qu'on dit le sol et le sous-sol appartient à l'État. Donc ça veut dire, en clair, où que vous soyez, dans notre pays, dans toutes les 26 provinces, il n'y a aucun individu, chef coutumier soit-il, n'a le droit de pouvoir céder une portion de terre sans l'avis de services compétents du ministère des Affaires foncières. Alors, puisque nous sommes en train de parler de terres arables, effectivement, par rapport à ce que notre ami Nkoulou a dit, mais est-ce que dans ces pays, nous avons une cartographie de terres qui ont subi l'accaparement? À mon avis, non. Mais nous savons qu'il y a des conflits fonciers dans tous les coins de la République. À commencer par la ville province de Kinshasa, jusque dans toutes les 25 autres provinces qui restent. Donc, ce problème-là, il est récurrent et ça doit faire l'objet, à mon avis, d'un sujet à ciel ouvert pour que le petit producteur agricole, parce que c'est de lui qu'il s'agit,
oui,
c'est lui qui est victime.
L'auditeur de Lubaché qui dit que
ça, oui,
c'est source d'insécurité alimentaire, les oui, gens ne savent pas où faire les choses.
Oui, oui, ce qu'il dit là, et même si les autres pays nous qualifient que nous sommes de fainéants, en réalité nous sommes de fainéants théoriques. Mais en pratique, le Congolais c'est un travailleur. On ne lui donne pas toutes les opportunités de manière à ce qu'il devienne un plus grand producteur. Les gens produisent, mais ils ne produisent pas jusqu'à atteindre de quantité assez remarquable qui puisse être à la fois consommée localement et être exportée. Donc c'est un peu ça la difficulté. Ça c'est du point de vue organisationnel. Ça c'est le ministère de l'Agriculture qui devrait s'assumer. Je sais qu'il y a eu un grand projet auquel nous avions pris part, le Plan National d'Investissement Agricole, le PENIA, dans le cas de PDDA, mais il s'est fait malheureusement, la théorie c'est autre chose, la pratique en est aussi une autre. Donc du point de vue théorique, il y a beaucoup de projets qui ont été montés ici au pays, mais qui malheureusement n'ont pas eu des implications assez pratiques pour que nous obtenions des résultats qu'il faut et éviter que nous puissions dépendre non seulement de nos voisins, mais aussi de pays lointains.
Ingénieur, on retourne au standard. On va donner la parole à la dernière vague des auditeurs qui attendent. Oui. Jack Bofenga, on n'a plus assez de temps. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ces sujets? Allez-y rapidement, vous intervenez de Kisangani.
Oui, allô, allô, monsieur le journaliste.
Bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour à l'invité qui est au studio.
On vous donne la parole, allez-y.
Merci.
Merci beaucoup pour m'associer dans ce débat ainsi très intéressant par rapport aux situations que nous observons dans nos milieux. Et je me suis en train de percevoir que en République démocratique du Congo, en dehors des terres coutumières qui peuvent être occupées en vertu des coutumes et usages locaux, toute occupation du sol n'est légale ou régulière que si elle est sur base d'un contrat de concession foncière consenti par l'État qui est derrière le seul propriétaire des terres. Maintenant, dans ce contexte, moi, j'aimerais un peu savoir qui peut valablement concéder une terre ou au nom de l'État et quelles sont les conditions des fonds et des formes qui doivent être respectées pour validité du contrat de cette occupation-là. Parce que normalement, dans notre pays, il y a une confusion à partir des compétences des services de l'État aussi qui attribuent des concessions illégalement. Parce que nous constatons aussi ici même à Kisangani, il y a des conflits foncières qui font vraiment couler d'encre d'armes ces derniers temps. Et c'est pourquoi j'aimerais avoir l'éclaircissement auprès de l'invité qui est l'expert dans ce domaine, qui peut nous situer, nous déterminer les services compétents qui peuvent vraiment attribuer une concession de manière permanente à quelqu'un. Et puis les conditions aussi des fonds et des formes, des fois ça nous fait défaut. Vous allez voir que le même agent de l'État qui avait octroyé peut-être un certificat, l'autre vient avec d'autres, ça ce n'est plus normal, ça ce n'est plus valide. Alors, je me rappelle que l'invité puisse me situer dans cette situation-là.
Merci beaucoup, M. Jacques Bofenga. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Kisangani que vous intervenez. Maître Patrick Audi, à vous, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste, bonjour à l'invité, aux nombreux auditeurs de la radio Capi.
Rapidement, on n'a plus assez de temps, maître, allez-y.
Rapidement, je voudrais peut-être y aller en faisant observer à l'invité de tout à l'heure qui parlait, je rappelle que je suis juriste, lorsqu'il parle beaucoup plus des services attitrés qui sont compétents, nous avons, il y a à boire et à manger dans cette histoire de la légalité et tout ce qui va avec. Je vous dis que je l'informe parce qu'il est au courant d'ailleurs, qu'il y a une loi qu'on appelle la loi Sakomi, qui voudrait à ce que l'État ou l'État revenait uniquement et exclusivement à l'État. Mais avec cette nouvelle loi également, la loi Sakomi, on constate qu'il y a des lois ou des terres dites revenant de la compétence des chefs coutumiers, également d'autre part, des terres qui reviennent désormais à l'État pouvant également les attribuer également. Donc, c'était dit à un manque de praxéologie, des pratiques, surtout saines, dans la distribution des terres également. Vous aviez d'une part l'État qui était compétent de pouvoir donner des terres, mais d'autre part, lorsque le chef de l'État, j'allais dire les chefs coutumiers ou les responsables coutumiers, n'étaient pas intéressés à la chose, vous allez voir que sur le plan sociologique, sur le plan pratique, ça, vous ne pouvez pas obtenir ces terres, même si tous les documents... Je suis juriste, praticien, je sais de quoi je parle, peut-être qui n'étaient pas informés de la pratique ou de la praxéologie de cette procédure. C'est ici les liens de pouvoir saluer la loi, dite Sakomi également. Je voudrais également parler de remboursement. Il a parlé des délégations sans remboursement. Vous savez, l'expropriation pour cause d'utilité publique a également des principes, des règles, mais aussi des exceptions également. Est-ce peut-elle lui dire aujourd'hui que cette expropriation, souvent faite dans des milliers ruraux également, suit les normes procédurales en la matière? Je dirais non. Dans la plupart des temps, on peut exproprier les villageois et autres, également, parce qu'il y a une raison d'utilité publique, mais à la fin, vous allez voir que les dommages et intérêts, j'allais dire, les préjudices subis par ces personnes ou ces villageois, n'est pas à la hauteur de ce qu'on donne ou donnerait l'État en termes de remboursement également. D'où, je pense qu'ils privilégient tout simplement l'aspect légal, l'aspect juridique, dire que non, c'est l'État qui est compétent, c'est manquer à répondre aux besoins sociologiques sur terrain également. Donc, d'une part, vous ne pouvez pas obtenir des terres, même si vous avez tous les documents, mais il faut également y associer. Et oui.
Maître, s'il vous plaît. Oui, on est coincé par les temps. Veuillez nous excuser. On a compris les compléments d'information que tu as apportés à ces rendez-vous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous à la prochaine occasion, maître. Je rappelle que c'est depuis la ville de Lubumbashi que vous intervenez. En quelques secondes, pour conclure l'émission, ingénieur, qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Bon, vous avez vous-même remarqué que le sujet, il est très passionnant.
Oui, et donc que, en un numéro, on ne va pas épuiser tous les aspects du contenu du sujet.
Alors, juste par rapport au dernier intervenant, maître Patrick, je pense que du point de vue de la loi, c'est la loi Sakomi, je ne sais pas si elle est déjà
promulguée,
tout ça.
C'est un projet de loi.
Ou un projet de loi, comme je le disais là. Oui, mais je sais qu'il y a eu cette activité-là. Mais dans tous les cas, du point de vue procédural, comme la personne de Kisangani a posé...
Ah, cette... On a plus assez de temps, maître.
Oui, oui. Il voulait savoir par où on commence. Mmh. Mais il y a d'abord le cadastre qui octroie un formulaire.
Oui.
Dès que vous avez obtenu du point de vue du cadastre, vous allez au titre foncier.
Oui, maître, ingénieur Ignace Bizarre, c'est par ici que nous allons clôturer notre magazine au Capi Service de ces mercredis tapis 20. Que nous allons clôturer le magazine au Capi Service de cette journée. Nous rappelons que vous êtes consultant à la Confédération Paysanne du Congo, COPACO en sigle. C'est par ici que nous clôturons le magazine au Capi Service qui a été réalisé par Grâce Nvezolo et Jean-Claude Tial a été à la mise en onde. Les rendez-vous est pris pour un autre rendez-vous d'au Capi Service. En attendant, portez-vous bien et excellente journée.